Bonjour, donc je reprends ce que nous avions dit la semaine dernière concernant le Sheva. Il y a, je le rappelle, deux sortes de Sheva, Sheva Nah, qui ne se prononce pas, et Sheva Nah, qui est un Sheva qui se prononce, qui est une voyelle qui se prononce de manière rapide, et. Donc deux sortes de Sheva. Nous avions vu qu'il y avait cinq règles permettant de dire si un Sheva est Nah, ne se prononce pas ou na se prononce. Ces cinq règles ont pour moyen mnémotechnique Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Revoyons rapidement les règles que nous avions vues la semaine dernière, qui étaient la règle, les deux premières et les deux dernières règles. Donc Aleph, ça veut dire 1 en hébreu, ça compte le 1. Donc si un Sheva en début de mot, c'est un Sheva na, il se prononce. Ensuite, on a bet. Bet, en hébreu, ça signifie deux. Donc, deux. Quand nous avons deux shevas qui se suivent, le deuxième sheva, le sheva, se prononce. Troisième règle, c'est celle que nous allons détailler aujourd'hui, qui est la règle guimel, la sheva qui suit une ténor aguedola. Règle numéro 4, dalet. Dalet, c'est la première lettre du mot dégoucha. Donc, un sheva qui est dans une lettre avec un dagesh, une lettre qui a un point à l'intérieur qu'on appelle dagesh, est un sheva na qui se prononce. Et enfin, nous avons le he, qui est la cinquième règle, qui est donc la première lettre de Hadomot. Si nous avons deux lettres identiques qui se succèdent, la première lettre ayant un sheva, comme Hallelu, le Sheva est un Sheva Na, il se prononce Hallelu Romelu. Voilà. Donc ça, c'est succinctement ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, nous allons attaquer la règle numéro 3. Avant de faire cela, il faut savoir ce que c'est qu'une voyelle. Puisqu'on a dit que c'est après une voyelle longue, une ténora guédola. Donc il faut bien savoir quelles sont les voyelles courtes et les voyelles longues. Nous avons donc, comme on l'a deviné, deux sortes de voyelles, les voyelles courtes et les voyelles longues, et elles sont par couple. Chaque voyelle courte est associée à une voyelle longue. Donc nous avons de fait comme ça cinq couples de voyelles que nous allons énoncer. Nous avons donc le A, le patah, qui est un petit trait, le patah, donc qui est A, avec ensuite le associé, le kamatz, qui se prononce également A, un A un peu plus long, Rabbeinu Behaye, essaye de comprendre la différence entre les différentes voyelles, nous dit que déjà à l'époque, donc c'était vers le 12e siècle environ, 12, 13e maximum, non, plutôt 12, que une ténora guédola, le kamat, c'est une voyelle longue, elle se prononce plus longue, plus une durée plus longue que la voyelle courte correspondante. Donc Rabbeinu Behaye est un des rishonim, donc un des commentateurs médiévaux qui habitait en Espagne. Donc si on voit que nous prononçons le kamat et le patah à peu près de la même manière, ça date pas d'hier, ça date il y a fort longtemps. Ensuite, le deuxième couple, c'est le ségol, trois points, qui se prononce « et le tséré, qui se prononce « et donc une voyelle longue, qui est donc un « et » un peu plus long. Donc ségol, voyelle courte, tséré, voyelle longue correspondante. Ensuite, nous avons le « i ». Le « i » est le « hérik » en hébreu, avec un petit point en dessous d'une lettre. Et la voyelle longue correspondante, c'est le « hérik malé », qui est un point en dessous d'une certaine lettre, et suivi d'un yod sans voyelle. Donc il s'appelle Herik Malé, Herik Plein, qui est une voyelle longue. Donc nous avons déjà vu trois couples. Ensuite, nous avons le Kamatz Hatouf, c'est un Kamatz qui se prononce O, comme dans Rosi. Donc le Kamatz Hatouf, O, est une voyelle courte. Le Kamatz Long, qu'on a vu précédemment, s'appelle par opposition Kamatz Arahav, Kamatz Long. Donc le kamatz hatou, voyelle courte, a pour correspondance en voyelle longue le holam. Le holam, qui est n'importe quelle lettre avec un point au-dessus, s'appelle holam. On a deux sortes de holam. Holam, comme je viens de l'indiquer, et holam malé. Le holam malé étant donc une lettre suivie d'un vav avec un point en haut. Donc, ça va s'appeler un holam plein, holam malé. Mais c'est la même voyelle. Il peut y avoir interchangeabilité avec holam tout court, holam malé, c'est la même voyelle. Je ne rentre pas évidemment dans les problèmes de halachique, dans la halachique d'écriture du Sefer Torah, où là, on est plus vigilant. Mais d'un point de vue grammatical, c'est la même voyelle. Et enfin, nous avons le kubutz, trois petits points en diagonale, qui se prononce ou, et le shuruk, pardon, qui est un vav avec un point au milieu, qui se prononce également ou, et qui est donc le voyelle longue correspondante. Donc nous avons vu cinq couples, deux lettres, deux voyelles chaque fois, une courte, une longue. Patah, je commence par la voyelle courte, ensuite la voyelle longue. Patah, kamat, segol, serré la longue. Hirik, un point, hirik malé avec un yod derrière, qui est la longue. Kubutz, trois petits points en diagonale, et derrière, donc le shuruk, un vav, donc qui est la voyelle longue. Et le kamat, hatouf, qui se prononce O, le kamat qui se prononce O. Et derrière, le holam, qui est la voyelle longue correspondante. Donc, on reprend notre problématique du sheva. Un sheva qui suit une voyelle longue est un sheva na. De base, on va voir que la règle doit être précisée. Je vais donner un exemple. Vaïreou. On voit ça plusieurs fois dans la prière de tous les jours. Vaïreou, amen. Donc, vaïreou, ça veut dire, c'est un yod, le vaï, le premier yod, qui est avec un i, un hérik, qui est suivi d'un autre yod sans voyelle. Donc, le sheva qui est dans le resh, qui suit le yod sans voyelle, est un shevana, puisque nous venons de rencontrer une voyelle longue, qui est le hérik malé. Derrière, nous avons une voyelle longue. Par exemple, on va avoir tuvecha. Tuvecha, un tête avec un shuruk, le shuruk voyelle longue. Derrière, le bet, qui est avec un sheva, est un sheva na. Et donc, nous avons tuvecha et pas tuvra. De la même manière, on a Toratera, le Resh est avec un Kamat, voyelle longue. Le Tav qui suit est avec un Sheva, qui est donc un Sheva Na, puisqu'il suit une voyelle longue. De la même manière, en Romedim, nous avons un Holam dans le Haïm, un Holam Malé. Et derrière, nous avons un Tav avec un Sheva, donc qui est un Sheva Na, qui suit une Tenoa Gedola. De la même manière, on va avoir Pinéhas, un parasha Pinéhas. J'avais un rave dans la synagogue dans laquelle j'allais, qui était le rave David Bousquila à Paris, rue de l'Orion, pendant de nombreuses années, et il disait Pinéhas, et il avait bien raison, s'il avait écrit des livres de grammaire, il faut le dire aussi. Et donc on a le P avec un Hérik suivi d'un Yod, qui est un Hérik Malé, et derrière le Noun avec un Sheva, est un Sheva Na, puisqu'il suit une Tenoa Gedola. Alors, cette règle demande à être précisée. En fait, ce n'est pas toujours vrai qu'un Sheva qui suit une Tenoa Gedola est un Sheva Na. Il y a, non pas des exceptions, mais il y a des conditions. Par exemple, nous avons le mot Artsa. Le mot Artsa, on ne dit pas Aretsa. On a Aleph avec Kamatz, le Resh avec Sheva. On dit Artsa, on ne dit pas Aretsa. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut voir comment est situé le Sheva par rapport au Ta'am. Chaque mot a un Ta'am. Si le Ta'am peut être sur une note de musique, si vous voulez, une vocalisation, le Ta'am peut être sur la dernière syllabe ou l'avant-dernière syllabe. D'accord ? Donc maintenant, si le Sheva, même s'il suit une Tenoa Gedola, est après le Ta'am, alors le Sheva est Nah. Et si le Sheva est avant le Ta'am, on respecte la règle que Sheva qui suit une Tenoa Gedola est un Sheva Nah qui se prononce. Donc par exemple là, on a Artsa, le mot est Milael, l'accent tonique est sur le premier Aleph A, Tenoa Gedola, derrière un Resh avec un Sheva, eh bien le Sheva vient après le Ta'am, donc quoi qu'il en soit, c'est un Sheva Nah et pas un Sheva Nah. De la même manière, on a Boshti. Boshti, on a un holam sur le bet, le sheva qui le suit, et devrait être un shevana, si on appliquait la règle sans la précision. Mais non, le boshti, le mot est minéral, minéral, pardon, le sheva, le tam, pardon, est sur le bet, donc on a boshti, et le sheva qui suit est un shevana, même s'il suit une tenora gedola, parce que il est après le ta'am. De la même manière, on a qe'edma. Qe'edma, on a un tseré sur le kouf, donc qui suit une tenua, le tseré est une tenua gedola. Derrière, on a un dalet avec un sheva. On pourrait dire que c'est un sheva na, pas du tout, puisque le mot est mila'el, qe'edma. Et donc, le sheva est après le ta'am, il est donc forcément na. Voilà, donc, quelques exemples que nous avons vu là, et qui nous permettent de voir que cette règle de Sheva après un Tenoa Gedola souffre une exception. Il faut absolument que le Sheva soit placé avant le Taham pour que le Sheva soit Na et pas Na, même s'il suit une Tenoa Gedola. On a par exemple d'autres mots, d'autres exceptions qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le Nasogahor, ou bien un Tenora Gedola qui se transforme en Tenora Ketana, mais je préciserai ces règles-là d'autres fois, en particulier quand on les rencontrera lors de la lecture de la Torah, parce que il est quand même difficile, ce sont des règles difficiles, pour les retenir c'est difficile, à travers un cours audio en plus c'est encore plus difficile, si on avait un papier pour se rendre compte des choses, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Une dernière précision avant de terminer cette première partie, c'est que tout ceci concerne l'hébreu, et pas l'araméen par exemple. En araméen on va dire les alma et pas les alema. Pourquoi ? Parce que cette règle de grammaire concerne uniquement l'hébreu et pas l'araméen. Voilà, cette première partie de l'enregistrement est terminée. À tout de suite pour la lecture de la Torah qui va expliquer les règles sur des cas pratiques par rapport à ce que nous venons de voir.